Bonjour, bienvenue à cette journée d'études intitulée « Non sans malice » par François, « No Representation Without Circulation, An Alternative History of American Visual Culture ». Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Collège franco-britannique et je tiens à remercier nos partenaires, à savoir le LARCA, l'Université Paris-Nanterre, le laboratoire Histoire des arts et des représentations, ainsi que le Collège franco-britannique. Je souhaite aussi remercier les organisateurs de cet événement, à savoir aussi François, Ségolène Lemen, Verle Tillemans et Constance Moreto, ainsi que tous les participants. Aujourd'hui, nous avons comme point de départ de ces journées une collection d'ouvrages que je vous ai présentés ici, ainsi qu'un ouvrage en particulier intitulé « Circulation ». C'est un ouvrage qui a été dirigé par François Brunet, que j'ai édité et qui vient de paraître. Ce sont des tout premiers volumes d'une collection qui a été lancée l'année dernière. Donc on en a édité deux l'année dernière et deux cette année. Et c'est une aventure éditoriale qui a débuté en fait en 2009-2010, à partir d'une idée que Verle Tillemans et moi-même avions développée. Nous souhaitions à l'époque donner une voix à la Fondation dans le domaine de la recherche universitaire, une voix qu'on a rarement puisqu'on est surtout connu pour nos programmes de mécénat et de subventions à la recherche et à l'enseignement. On a vite été rejoint par Rachel DeLue qui s'est jointe à nous, qui a répondu un peu à notre invitation pour donner un peu un corps, une forme à ces volumes. Et donc la forme finale que vous avez aujourd'hui, c'est vraiment un concept qui a été développé avec Verle et Rachel. Et ensuite, on a beaucoup parlé à de nombreux comités pour discuter des thèmes, puisque c'est une collection qui est basée sur des thèmes, là représentés, enfin à chaque fois vous avez un mot. L'idée, c'était de réunir dans ces volumes des chercheurs américains et non-américains, aussi des chercheurs émergents et confirmés. Et l'idée, c'était de les réunir autour d'un thème, un thème important dans l'histoire de l'art des États-Unis. Et en fait, c'était juste un concept qui pouvait également appeler et faire écho à des historiens d'art dans d'autres spécialités, dans d'autres disciplines. Donc c'était pas du tout juste un thème qui se focalise sur l'art des États-Unis. L'histoire de l'art des États-Unis est une histoire, et bien évidemment, des objets, mais c'est aussi une histoire des idées. Et l'objectif, enfin c'était un des objectifs de la collection, c'était d'élargir le terrain conceptuel et méthodologique de l'histoire de l'art des États-Unis, de s'adresser aux historiens de l'art de toutes les spécialités, donc avec des thèmes qui s'adressent aussi bien à leur discipline qu'à la nôtre, et aussi de ne pas se cantonner simplement à l'histoire de l'art, mais aussi s'ouvrir à la culture visuelle et à d'autres disciplines. Donc dans le premier volume, si vous regardez le sommaire de Picturing, on a également un texte qui est plus littéraire, donc on essaye d'être interdisciplinaire. Les thèmes sont en général solidement ancrés dans des termes et des préoccupations actuelles. Ça marque la collection dans sa décennie, on en est bien conscient et c'est voulu, ce sera comme ça. Je pense que quand on regardera dans 20 ans, on dira « mais pourquoi on a fait ça ?» Mais voilà. L'idée, c'est quand même vraiment de procurer ou de créer des points de départ à des conversations, des conversations interdisciplinaires ou des conversations entre spécialités. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un moment parfait et j'espère que voilà, on va pouvoir avoir de nombreuses discussions autour du thème de circulation. Je vais laisser François donc introduire le volume et parler un petit peu plus précisément de ce qu'il souhaitait faire. Merci beaucoup et puis bonne discussion.
Good morning. So being the American citizen here, I'm going to speak in English. And first of all, to thank very warmly the Terra Foundation for initiating really the study day, and our colleagues at Nanterre, Histoire de l'Art et des Représentations, Ségolène Le Menn, Christian Joschke, and especially to for supporting it. One thing that Francesca did not mention is that this connection, this relationship between L'Arca and or between Paris Diderot and Paris Nanterre is anchored in our long-term partnership on the Terra Foundation program for teaching and research in American art, which is currently being discussed for another, hopefully for another installment over the next 2 years. To remind you just that this program consists of welcoming, on the one hand, a postdoctoral fellow to teach us a regular seminar in both our master's program, and also usually organizes a colloquium in the spring. And this postdoctoral fellowship is complemented or doubled up by guest faculty terms of 1 to 2 months, which in the future installment of this program, if it goes through, will be now funded by the universities themselves or their foundations. So it's an important aspect of our, of what we do in Paris with the Terra Foundation, and we thought it would be a good idea to illustrate this with this study day, particularly in view of the fact that at least one former fellow of this program, Hélène Valence, who is here, is also a contributor in the book, so that it's a good illustration of that synergy. I also must acknowledge the fact that without the Terra Foundation, we would not have been able to gather such an impressive and exciting group of speakers, which certainly as a testimony to the interest of the theme, but certainly also to the Terra's great network, which was so visible in Fontainebleau over the weekend. I don't think that without the Terra, the Festival de l'Histoire de l'Art this year would have been quite the same. So I'm very grateful to all of you for being here in the rainy Roland-Garros weather and in the difficult times that we live in general. I also obviously need to thank and commend the Terra Foundation for picking me, of all people, to edit this book. Apparently because of my little work on the diffusion of American photography in the 19th century. I will be speaking a little bit now, just a tad, about the conception of this book, but not much, because this will be addressed at different moments in the symposium. And I'm not going to go back over the remarkable series that this is part in, without necessarily being remarkable in itself, but the series and its concepts, which are obviously not traditional art historical concepts, at least in the sense that we think of traditional art historical concepts, especially here in France. And my general idea, the only thing I want to just venture at this point, is that there seems to be a connection between these concepts, these categories, circulation, scale, experience, picturing. Maybe I won't go so far as to say that they create a new paradigm, but certainly they establish a more explicit relationship between art history and the field of visual culture. And if I am indeed responsible for the title No Representation Without Circulation, which is the title of the introduction to the book, I am not responsible for the subtitle An Alternative History of Visual Culture, American Visual Culture, but I think it's an excellent subtitle, because this the point is that vision or a new perspective on art history cannot go without also a new perspective on visual culture. So this is, in a sense, the very broad framework that we're trying to probe in these 2 days. How does this relationship work itself out today? And of course, how more specifically in the field of American art? So just to say a few more words about the general drift of the general argument of the book and this slogan, no representation without circulation. It is a slogan, obviously, adapted playfully from the revolutionary slogan, no taxation without representation. It alludes to an intimate, perhaps inescapable relationship in the American context or contexts or in American historical situations of art, art making, to, I would say, first of all, economics or the economy, society, and politics. This relationship from a French viewpoint, where, of course, since at least the time of Napoleon, and probably before, where this relationship or this connection between art and economy, society, and politics has been somewhat dismantled or made more less visible. This link is visible, as I was saying, from the French viewpoint almost at any moment of the history of American art, and I take as two just token examples Gilbert Stuart's Portraits of Washington, which I mentioned in the introduction. The way Stuart churns out these portraits, which are all at the same time originals and copies, at least that's the way he talks about them, and with slight variations. And one of them, the master, one of them all, is never finished until he dies. To Andy Warhol, who we heard discussed very interestingly the other day in Fontainebleau, and who certainly embodies still today, perhaps more than anybody else, this absolute immersion of art in social, economic, and political structures. So the argument is there is a long-term history of this link, and circulation is one of the ways of describing it. And therefore, since this is a long-term link, it should not be thought of as a product of a recent historiographical revision induced particularly by digital circulation. But at the same time, as I say that, we're all very aware that probably the concept circulation would not have been chosen as a category for a book of this kind if it weren't for digital culture, for the digital present that we live in, and does induce us to pay attention to circulation as it functions today, and also as it reflects on earlier eras of circulation, and particularly on the whole issue of materiality and dematerialization in the long history of art. So in other words, as we think about immaterial circulation, we also think by a sort of inevitable ricochet about earlier circulations of objects, prints, pictures that weigh, pictures that have a scale, pictures that are difficult objects, cumbersome contraptions in transit, as Jennifer Roberts puts it, and which this whole materiality of pictures and objects, which digital circulation tends to omit or forget or erase, but at the same time, once again, also bring back attention to it. And to think also about what I will simply describe in just a couple of words, and we'll come back to this, the fantasy of immediate, matterless, perfect, pure circulation, not only as a defining feature of the digital era, but as a possible long-term horizon of art and thinking on art, even perhaps in the Greenbergian model of the pure, purely spiritual encounter of the viewer with the work of art. One of the things that I would like to us to be able to discuss, and perhaps we'll do this this afternoon with Christian Joschke and also tomorrow during the roundtable, is to think about these, the way these questions of today lead us to reflect back on earlier moments, and especially the moment that I addressed in the introduction of this interesting coincidence of Greenberg's Avant-Garde and Kitsch article of 1938 with Erwin Panofsky's Studies in Iconology of 1939, which are so vastly, wildly different approaches to art history. So, to construct a history of art and visual culture as intimately related by patterns and modes of circulation is to try to hold both ends of this thread. And probably also try to avoid what I call digital presentism or digital genealogism, which is the very prevalent, widespread current of thinking, which consists of finding anticipations of all sorts of digital categories in the past. You know, the selfies in 1920s, virtual reality in 1865 with stereoscopy, et cetera, et cetera. Those kinds of questions are also, I think, on my mind. And finally, as the subtitle stresses, to envision the relationship of art and visual culture as bifocal, working in both directions. That is to say, it is one thing to suggest that art, perhaps in the American context more than elsewhere, is difficult to separate from visual culture. But it's another, and I think just as important one, to think, to say, and suggest that visual culture, which is usually often thought of as a sort of diminished version of art, at least from the aesthetic viewpoint, visual culture, especially in the U.S., works in a very close relationship to art, and that it is not perhaps also something that is quite as perceptible in the same way elsewhere. So I would like to say more about all of this, but I'm going to stop and take this occasion to thank again the book's contributors, whom we didn't invite. We didn't try to invite them for this symposium because we didn't want to just repeat the book. That was not the point. But I think that they will be very present through their contributions. And I would also like to thank my students from the master's seminar at Paris Diderot, which for 2 years worked on circulation as its theme, was actually the framework in which I invited the contributors to the book to test early versions of their chapters, and where we discussed these big themes of art history. So that's basically all I want to say, and I hope you enjoy the next couple of days. Today we'll have a session this morning with two speakers, and then another session this afternoon, and then a longer keynote address at 4:45 by Hollis Clayson, and then a cocktail. And that I remind you that after the cocktail at 8:30, we will have a choir concert by the Ensemble Fuga Libre, who will sing Haydn, as they put on their posters, but also Samuel Barber and Aaron Copland, as I requested them to play American choral music. So I hope you enjoy the day, and I'm going to stop here. And we're going to invite Ségolène Le Menn to serve as chair for our first session, as well as her speakers, Marie-Stéphanie Delamer and Jean-Philippe Antoine.
So many thanks for this introduction, which frames really the whole day and is a really interesting introduction. We really are eager to read the book now. The first session will be about two issues, as there are two speakers, and the general idea is the idea of the birth of a democratic project disseminating the arts in the early 19th century. So within this long history, which has been spoken about, we are going to speak about the early 19th century, and also about first the aspect of print culture, which is of course the history of printing books, but also printing images, and the connections between the two are really interesting. And also the question of history of ideas and the circulation of ideas and intellectual issues, with the talk about lectures by Jean-Philippe Antoine. So now I'm going to present Stéphanie Delamer, who's going to give the first presentation, 19th century American genre painting, a medium in translation. So Stéphanie is the associate curator of fine arts at Winterthur Museum and an affiliated assistant professor in the Winterthur program in American material culture at the University of Delaware. She earned her PhD in art history from Columbia University, where she's also worked as a lecturer. She is a specialist in American printmaking and the transnational art market, and her research has been supported by the Terra Foundation for American Art, which is so important for us all, and the Andrew Mellon Foundation, and also the National Endowments for the Humanities, among others. Her recent publications include, maybe you know these books, Lasting Impressions, The Artist of Courier and Knives, published by the Winterthur Museum, and also articles on the national art dealer and publisher Goupil, which started in France but then moved to England and then the States, and American artists Thomas Nast and Richard Conan Woodwill. And so her talk is going to start now, and I let you speak now.
Thank you very much, and let me know if you, it's working fine. So thank you very much, and I would like to thank the Terra Foundation for inviting me to come here today and share my research. So today I will speak about the most widely popular and the most widely distributed type of art in antebellum America, genre painting. Built on British and Dutch antecedent, genre scenes flourished in America during the first half of the 19th century, when they figured prominently in annual exhibitions at local and national institutions, in the period's art criticism, and more importantly, in various publications. I will look at this body of work in light of the transformation that affected the media landscape of the middle of decades of the 19th century. The prominence of this art form in America was tied to innovations in imaging technology, to the incipient transatlantic economic integration, and to the revolution in transportation that fostered the expansion of the European art publishing industry in America, and the integration of the American print trade into an emerging global market. To give you a sense of these momentous transformations and their importance for American art in the period, in contrast to Peale's Philadelphia Museum, which had about 400 subscribers in 1794 and whose exhibitions were largely seen by local audiences, a picture such as William Sidney Mount's The Painter's Triumph reached an extended audience through its reproduction in an annual titled The Gift, published in 1839 with a print run of about 2,000. Similarly, a painting such as George Caleb Bingham's Jolly Flatboatman was not only exhibited in New York, but also reached an extended audience of about 10,000 in 1848 through its publication in large mezzotint. And finally, the circulation of Mount or Bingham's scene of American daily life further expanded outside the boundaries of the United States when they were published by the Parisian-based transnational firm Goupil & Company in New York, Paris, London, and Berlin between 1848 and 1855. From the start, American genre paintings were intimately connected to print culture and the publishing industry. John Lewis Krimmel, the first dedicated practitioner of the genre in America, used a reproductive print for one of his first genre scenes, The Blind Fiddler, which was a painted copy of John Burnett's engraving after Wilkie's painting, which he exhibited as a pendant to his own composition, The Quilting Frolic, at the Pennsylvania Academy in 1813. Krimmel's interest in printed images, however, went well beyond using them as a source for the European artistic tradition. In the following years, he entered into several collaborations with local businessmen, printmakers, publishers, and magazine editors with whom he experienced the possibilities offered by the expanding print culture of the Young Republic. In order to disseminate his comic domestic scenes to a broad audience, for instance, Krimmel worked to have the three compositions published in the Analectic magazine. These included Departure for Boarding School and The Return from Boarding School. The Analectic was one of the first literary magazines to experiment with new technologies of illustration. In 1819, it had printed the first commercially issued lithograph in the United States, A Small Landscape by Bass Otis. And in its use of Krimmel's illustrations, the Analectic's editor pioneered a new approach to the relationship between images and text, one that would become fundamental to the evolution of American literary culture in the following years. Prior to this moment, the magazine's print had either been independent from the articles published in each issue, or had, at best, presented a loose thematic connection to an article. However, Krimmel's composition was accompanied by editorial commentary that illustrated the image, identifying its narrative and protagonists for the viewer, and explaining it as a fiction with lightly moralistic overtones. In the enormous success of illustrated gift books and annuals, American genre painting found a major avenue for publication in luxury volumes, where, as Richard Maxwell has shown, illustrations were reimagined as a crucial component of the institution of literature. Gift books were small, lavishly bound books, largely aimed at female audiences. They were exchanged between friends, lovers, and family members on Christmas, New Year's, or birthdays. Krimmel's The Return from the Market was thus engraved by Alexander Lawson and published as The Happy Family in the Religious Souvenir of 1834. Likewise, many of William Sidney Mount's now most famous compositions were published in annuals. For instance, you have here P's engraving of The Long Story, a painting borrowed from the Baltimore collection of Robert Gilmore and published in The Gift of 1841. The establishment of the art unions in the 1840s offered new publication opportunities for American genre painters. Art unions were organizations founded on the principle of joint association by which the revenue of a small annual membership fee were used to purchase and exhibit artworks by living artists, which were redistributed to union's membership by lottery. With the American Art Union, for instance, which was the most important union in America, members of the union received a chance to win a painting at the end of the year, together with a copy of at least one engraving commissioned and published specifically for the annual lottery. The popularity of illustrated annuals, the transatlantic ties of the publishing houses that produced them, attracted European publishers to the American print market. This led transnational art dealers and publishers such as Goupil and Company to set up branches in the United States and become aggressive publishers of American genre scenes, including those of William Sidney Mount, George Caleb Bingham, and Richard Caden Woodville. Goupil and Company, for instance, circulated prints after these artists on both sides of the Atlantic. The printed images thus supplied the American market with print that were seen by many art critics as European translations of the American work of art. At the same time, artists who engaged with these transformations gained new audiences and the opportunity to participate in a growing network of art producers, dealers, and publishers that transcended regional and national boundaries. From Cremer's pioneer publications in the short-lived Analectic magazine of 1820 to Mount's sustained publications in American annuals, the Art Union and Goupil's transnational publications, painters of American daily life gained new audiences across wide geographical areas. Simultaneously, the new modes of art production that emerged tied American genre painters to the publishing industry. This close relationship supported a fundamentally fluid approach to the representation of everyday life, and one that would embrace an image's material flexibility as well as its semantic adaptability. So how are we to understand the depiction of American stock characters and their daily activities in antebellum American genre painting, often replete with wordplay and allusion to vernacular expression, in light of these transformations? The changes that affected the production and dissemination of antebellum American genre painting, I will argue, created the condition for the work of art to be recognized as an intermedial environment in which connections to Europe, as well as a tension between local and national cultures and identities, could be articulated and negotiated within a paradigm of translation. By the 1830s, translation had indeed become the main conceptual framework for the reproduction of work of art in America. From the notion of imitation, which had dominated the early modern literature on engraving, authors in Europe had started to adopt the metaphor for translation in the second half of the 18th century. In America, this conceptual shift took hold concurrently with the rise of the Jacksonian era, a period of American expansion, as well as a period of profound changes in the publishing industry that brought into existence the period's modern visual culture. It must be emphasized that in the United States, where numerous communities spoke various languages, especially west of the Appalachian Mountains, translation was far from a simple notion or a singular practice. Because of the polarity between the unofficial but desired monolingualism of the new nation and the actual multilingualism of many of its communities, translation was embedded in processes of nation building, colonialism, assimilation, and resistance. I will focus on the work of two leading genre painters of the period, George Caleb Bingham and Richard Caden Woodville, who practiced their craft on the margin of the art centers of the East Coast of the United States, and who succeeded because of their ability to sustain relationships with national and transnational publishers. Bingham was an artist and politician based in the Mississippi and Missouri Basin. Woodville of Baltimore, who painted all of his scenes of American life while living in Düsseldorf, Paris, and London. Looking at how they addressed the relationship between painted and printed surfaces, I will show that Bingham and Woodville investigated the implications of seeing a painting in translated form for a national narrative. In so doing, they explored the possibilities of disconnecting the depiction of local types and custom from the physical form that an art form took, and they imbued their work with a cultural mutability. Despite that Bingham and Woodville came from widely different backgrounds, they shared an interest in the relationship between painting and printed images. And they benefited from the same institutional patronage, the American Art Union and later Goupil & Company. Born in Virginia, Bingham grew up in rural Missouri, where he actively participated in the artistic and political life of the Western state. He was first apprenticed to a cabinet maker in Boonville, Missouri, and he became an itinerant portrait painter in the mid-1830s, traveling on the Missouri and Mississippi rivers, going at least as far south as Natchez and probably to New Orleans. In 1838, he took his first trip east and stayed in Philadelphia, where he copied artworks, purchased engraving, plaster cast, and drawings. Bingham has a reputation of a painter of the American West. And that reputation emerged in the East, in the eastern urban centers of the country in the 1840s, because of the patronage of the American Art Union. The union bought his first genre painting, Fur Trader Descending the Missouri, in 1845. And in 1847, the union gave national significance to another of his work, the Jolly Flat Boatman, by choosing it for the union's annual engraving. The painting was adapted to print in a beautiful mezzotint by Thomas Donnie, an unusual choice for the institution, who generally preferred line engraving, but one that was particularly well suited to the tonal quality of Bingham's river scene. However, the painter's relationship with the organization became strained a couple of years later. As the institution's notion of artistic national identity changed during the course of a bitter public quarrel with the New York-based International Art Union, which was managed by Goupil. Its critique towards Bingham's manner and his reliance on what the American Art Union saw as a formal artificiality and lack of earnestness led the painter to get to seek support with Goupil & Company, who published five of his paintings between 1850 and 1855. The Emigration of Daniel Boone, In a Quandary, Canvassing for a Vote, and two of the three paintings from the election trilogy, County Election and County Canvas. 14 years Bingham's junior, Richard Skadden Woodville belonged to a well-to-do family from Baltimore with close ties to Europe. On his father's side, he was related to Charles Carroll of Carleton, the only Catholic and last surviving signatory of the Declaration of Independence. His father, William Woodville, was a successful banker and merchant and the son of one of the most prominent Liverpool slave traders. Woodville's earliest extant painting is a portrait of Dr. Thomas Edmondson, an art patron and collector in the Baltimore area. Although an early work, the painting shows some of the elements that would characterize Woodville's later work, a preference for the small format, a fine brushwork of miniature painting. His technique shows the use of stippling, hatching, and washing typically found on miniature paintings of James Peel, Jr., Thomas Sully, and Henry Inman, painters who practiced in the Baltimore area at the time. In 1845, the year Bingham sent his first painting to the American Art Union, Woodville left for Europe to study painting. And after a year at the Düsseldorf Kunstakademie, Woodville became the private pupil of two of the Academy's leading painters, Carl Ferdinand Sohn and Carl Friedrich Lessing. In 1847, his first genre scene executed abroad, The Card Players, was exhibited at the American Art Union, bought by the organization, who would continue promoting Woodville's work throughout the artist's career. Despite their geographical, social, and cultural differences, Bingham and Woodville shared more than an interest in the depiction of American daily life. For both of them, the American Art Union's patronage was crucial and helped establish their reputation at a national scale. The New York organization provided them with a source of revenue by purchasing their paintings, publishing some of their pictures, and reporting steadily on their whereabouts and new work. Simultaneously, as Goupil & Company became a new source of patronage for American artists in the wake of its establishment in New York, both Bingham and Woodville made arrangements for their paintings to be reproduced in Paris and published in Europe and America. However, and in spite of numerous scholarly critique of the Western narrative, Bingham's life and art remained largely interpreted within the parameter of the American conquest of the West. The recent 2015 exhibition at the Metropolitan Museum of Art introduced Bingham, I quote, as the first major American artist to be based west of the Mississippi River. And it interpreted its river scenes as representations of America's wilderness, Western wilderness. Archival and material evidence, together with recent studies of the history of the Mississippi and Missouri Basin, however, provide the starting point for an alternative framework within which we can examine Bingham's life and artistic practice. In the early 1830s, Bingham became an itinerant painter. His correspondence indicates that he made extensive stays in St. Louis, a booming city, important commercial and cultural center linked to the fur trade. And he also traveled as far south as Natchez, and as I said, most probably New Orleans. In that way, he was following many painters of the Mississippi Valley who traveled up and down the Mississippi and left us visual records of the middle and upper middle class citizens of what Jay Gitlin has recently called the Creole Corridor. Many of these artists remain unidentified, such as the painter of this portrait of the French fur trader Pierre Cadet Chouteau of St. Louis. But the better known painters of New Orleans help us understand the regional background of Bingham's early portrait. In contrast to painters trained in the East, such as John Wesley Jarvis and Matthew Harris Jewett, who both traveled to New Orleans, numerous French trained artists who painted the people of the Mississippi Valley brought with them a specific approach to portraiture that built on pictorial models elaborated in the studio of Jacques-Louis David and his successors, in particular Giraud de Triouzon. John James Audubon in 1821, John Vanderlyn in 1821 and 1828, Louis Antoine Collat in 1822, Jean-Joseph Vaudechamp and Jacques Amont in the 1830s depicted the sitters in bust or three-quarters length, slightly turned towards the viewer, with a minimum amount of accessories, sometimes none, in front of a neutral background, with exceptions, such as this portrait of Jean-Baptiste Labranche with a stormy sky and landscape. Their figures are all strongly lit, with an artificial source of light coming from below, lending a dramatic contrast and emphasizing the sitter's three-dimensional form and its spatial separation from the background. Most of the portraits precisely depict the skin texture and the materiality of the fabric of the new accessories represented whenever they're present in the composition. Looking at Bingham's early untrained portraits, the parallels are obvious. Similar compositions, neutral background, artificial lightning, desire to create a strong three-dimensional rendering of the sitter's body, an attention to depicting various variations in the skin tone, and an attempt at precisely rendering clothing and accessories. And even if Bingham was largely self-taught, he must have had access to similar models and maybe to some of the artists themselves during his first travels as an itinerant painter. Looking at the formal evidence brought by the portrait paintings found in Lower and Upper Louisiana at the time of Bingham's first trip, places the Missouri painter's artistic practice firmly within this Creole pictorial tradition, rather than within a Western narrative of an artist emerging in a region almost completely void of artistic talent or pursuit. Additionally, despite his later trips to New York, Philadelphia, Baltimore, and Washington, D.C., and the significant improvements he brought to his painting technique, we can still perceive the mark of Bingham's early training in his later genre scene, in particular a tendency to project a strong artificial light source from below onto the figures, which project them onto the scene and then in sharp focus and detach them somehow from their surrounding. These are probably the elements that the American Art Union critics found problematic in later years. The artist's Western scene had been first well received by the institution, because they could readily be interpreted within the narrative of the conquest of the West by American civilization and democracy. French trader, half-breed son, to be retitled by the American Art Union, Fur Trader Descending the Missouri, by the managers, had been interpreted as has been interpreted as a fantasy, a scene of the past, an early stage in the development of the Missouri state, a moment that when French traders still roamed the landscape, marrying with Native American women, and before immigrants, steam navigation and flatboat would take over navigation on the rivers. Avoiding any trace of violent encounters, the scene implies that the French traders' fate is to share that of the Indian nations, that is to make space for the new inhabitants of the land, coming like Bingham's own family from Virginia or other eastern parts of the state. Later paintings like County Election presented the next step in the narrative with an optimistic view of the workings of the new American democracy and its citizenry. And I don't have time to talk about it here, but in fact, Saint-Louis was far from empty from French traders. As we've seen with the portrait of Pierre Chouteau, there was a very strong presence and economic and political and cultural dominance of French families and their allies with the Americans at the time. But the American Art Union redefined the nature of the American national artistic identity in 1951, arguing that rather than subject matter, it was composition, treatment of color and line, light and shade that were critical to the formation of a national school of art. Bingham was judged to have too many mannerisms. His regional approach to painting was deemed artificial and strained. And it is at the same time that the artist turned towards printed media, and I suggest he wanted to translate his regional paintings into pictures of national significance. Bingham's long correspondence with his friend and patron, the lawyer and Whig politician James Sidney Rawlins, demonstrates that the painter was largely greatly interested in the relationship between painted and printed image. Publication, dissemination, and market value run high in the artist's preoccupations. I quote, "I am now painting the emigration of Boone and his family to Kentucky. I do not know whether I will sell it to one of the art unions or have it engraved with the expectation of remunerating myself from the sale of the engravings. One of my recent pictures of life upon the Mississippi will be engraved this year in Paris by Goupil & Company, a French publishing house, a branch of which is located in this city." He's in New York when he's writing. "I have engaged to paint another for them in the course of the summer. Their publication by such a firm will be calculated to expand my reputation and enhance the value of my future works." It would be misleading to limit Bingham's interest in the reproduction of his paintings to reputation and financial stability alone. His concerns were also political and artistic. He was preoccupied with the image's medium because of the formal and ideological dimensions he recognized in the relationship between reproducible media and specific artworks. For instance, even though Bingham contracted Goupil for the reproduction of the emigration of Daniel Boone and his family, the resulting lithograph by Claude Regnier was a great disappointment for the artist, who had envisioned a line engraving rather than a drawing on stone. As a result, Bingham decided to explore the possibilities of independent publishing and contracted John Sartain, the most prominent mezzotint engraver of Philadelphia, to accomplish the next work. With a financial loan from Rawlins, Bingham took on all the responsibilities of a publisher for his County Election. Including commissioning the engraver, choosing the paper, the printer, and finding subscriber and advertising the prints. Bingham's dissatisfaction with the emigration of Daniel Boone has been attributed to the artist's natural expectation that his works should be engraved rather than lithographed, because engraving was the preferred medium for reproductive prints in America. But if Bingham was not thrilled with Goupil's The Emigration of Daniel Boone, he was delighted with the lithograph after In a Quandary, which we have here. He even compared it favorably with Donne's former mezzotint. The artist's change of mind, I think, is not the result of an inconsistent outlook on the role of and importance of reproduction. Instead, I think it reveals that Bingham had a different project in mind. Bingham approached the reproduction of his paintings from two different perspectives, one historical and one political. The emigration of Daniel Boone was a subject of historical significance, and as a result, it required an expensive and time-consuming technique which expected to find audiences over a long period of time. Given his disappointment with the lithograph after the emigration of Daniel Boone, when planning county election, Bingham did not take a chance that Goupil might disappoint him again, and instead, he took the responsibility for its translation into an engraved image. The composition represented an election scene in Missouri. The Western setting of the image is unmistakable. But this was a subject of historical value for Bingham as it represented American democracy establishing itself in the West. Designed in collaboration between painter and engraver, the printed county election adapted the original composition to its new function as a historical representation through its medium and technique. For example, despite Sartin's predilection for the mezzotint technique, a tonal process that would have been well suited to Bingham's painted surfaces, the artist pressed Sartain to emphasize linear elements such as Union Hotel hanging above the crowd of the voters, of the motto, the will of the people, the supreme law, embroidered on the banner. Sartain insisted on the American character of the courthouse architecture by making it a wood construction rather than and making it more perceptible than in the painting. And he convinced Bingham that generalizing certain aspects of the composition would give the print a more national character. He softened some of the features of the protagonist, and he did not change the newspaper's title from Missouri Republican to National Intelligencer, as what Bingham wanted originally. Instead, Sartain generalized the representation of the paper itself and its title to emphasize its generic appearance, which alluded to the role of the press in American democracy at large. In contrast, Bingham's river paintings and his Western village scenes, such as In a Quandary or Canvassing for a Vote, partook of an entirely different realm. Nancy Reich has aptly described the subtle political overtones of the painter's scenes. They are, I would argue, much more prominent in the works of art lithographic form. Stephen Bann has explored the status of various imaging techniques in the context of European visual culture. In America, fine arts lithographic reproductions were rare. The low cost and speed of the production made it the preferred medium for images of immediate local interest, such as sporting events, news, caricature, and political propaganda. When Bingham's In a Quandary or Canvassing for a Vote were drawn on stone, printed, and printed, the new works were closer to such political prints as log cabin politicians in terms of material, medium, and size than they were to the painting that they actually represented. Accepting Goupil's proposal for a lithographic reproduction of In a Quandary was not only a means of artistic dissemination. Circulating through Goupil's extended network of agents, who were not necessarily print sellers, the lithograph participated in the period's emerging mass visual culture, where they promoted the ideas of Bingham's political party to citizens in the East. Bingham was indeed a delegate for the 8th District of the Whig National Convention of Baltimore in 1852, and the publication of In a Quandary that year coincided with the preparation of the National Whig Platform, which advocated federal spending on infrastructure and river improvements, precisely the agenda implied in the picture. Regnier's lithographs were printed images that belonged to the public sphere and disseminated a visual argument in support of Bingham's Western political agenda. As a result, they did not need the kind of close collaboration that Bingham found necessary with county election. Goupil's delocalized but fast reproduction process was ideally suited to distribute the painter's local misery agenda on a national scale. Bingham's interest in publishing his paintings in various media, sometimes as engravings, sometimes as lithographs, reflect the artist's desire to give a national dimension to his work. Despite the American Art Union's waning patronage and other critics' allusion to the picturesque but foreign aspect of his depictions of Western life, in the following years, the painter did not abandon his pictorial ambition and used printed media to negotiate his position at the margins of the East Coast art centers. In print, his pictures position the representation of daily life in Missouri at the center of the national American story, whether political or historical. Woodville, too, was interested in the role of reproductive prints in American culture. Several of his representations of American life, The Card Players of 1846, The Soldier's Experience of 1847, and Old 76 and Young 48 of 1849, included printed images among the material objects that composed the scene's furnishings. In The Card Players, a large but indistinct frame print is painted at the... In The Card Players, a large but indistinct frame print is painted at the center of the composition, half behind the large broadside from Baltimore's Front Street Theater. Soldier's Experience features both a framed engraving above a veteran, recognizable only from its date, clearly painted in the print's mat, and a more elusive printed image casually attached to the cabinet door behind the young soldier. And in the last work, Old 76 and Young 48, Woodville represented the monumental frame painting after Trumbull's Declaration of Independence at the forefront of his composition, where it plays a key iconographical role, crowning the fireplace and leading the main diagonal connecting the entire family to the young soldier and his sword on the floor. Woodville's genre paintings are scenes of interiors. They are full of objects: stove, chimney, tables, clocks, chairs, fabrics, pieces of ceramic, glass, metal, and an abundance of printed images and text. His exquisitely fine depictions of their surfaces and materials invite the viewer's close examination of the painted surface and distract from the story that seems to be the subject of representation. In contrast to the tight brushwork he used for the meticulously painted objects, however, Woodville represented the printed images and text more broadly, sometimes to the point of illegibility. By positioning the print above the fireplace in Old 76 and Young 48, a change he made in the course of the production of the painting, Woodville placed the engraved image in the most brightly lit area of the picture, where its black and gray square would stand in strong formal contrast to its exquisitely detailed surroundings, the gray and white marble, brass andirons, tongs, fender, the hearth glowing embers, and the bricks, and even its cracked protective glass and richly sculpted gilt frame. Woodville's illegible brushwork for the surface of the engraving itself points to the reproduction's failure to communicate anything about Trumbull's original artwork, and therefore questions its significance for the family's argument, the apparent topic of the painting. At the same time, the painted print is the most authorial area of Woodville's composition, since it is the most conspicuous area where the viewer can perceive the hand of the artist at work on the surface of the painting. Woodville's depiction of a conflict between two generations of Americans, seemingly reinforced in the abstract and obscured representation of Trumbull's Declaration of Independence in print, thus not only argues for the obsolescence of a particular history painting, but also insist on the utter contemporaneity of his own representation, since it is only possible to fully apprehend the meaning of the work as a painted object in the presence of the original work itself. In The Card Players, Woodville gives us even less visual information to identify what kind of print we are looking at. The theme of the painting is a variation on 17th century representations of card sharps, suggesting confidence games and deceptive appearances. Two white men are playing a game of cards in a country stagecoach inn with a bystander, an innkeeper or traveler, mildly interested in the game, while an African-American figure at the left of the picture observes a dispute about to arise between the players. Bills, notices, and broadsides are key to the painting's ability to evoke a sense of place that accommodates both national and regional identity. Juxtaposing printed ephemera and framing prints as part of the inn's furnishing, Woodville did not create a transparent onto the hazards of life of the American traveler in the 1840s. but he used them to suffuse his paintings with meaning. Using loose brushwork for the printed broadside, schedules, advertisements, sales, and political notices, and using his miniaturist technique for the furniture, a painted clock, a cobalt blue stoneware pitcher, a wash basin, a piece of soap on the floor, a towel, a mirror, and a comb, and a brush hanging from a nail at the door, he specifically situated the picture in a broad American setting while more subtly calling attention to its proximity to Baltimore. Indeed, these objects were typically associated with American travel culture at the time, especially as they were described from abroad. In the works of a British traveler, for example, the American inn always presented the following item: a bar, the only inhabited apartment about the house, within which are always to be met with the convenience of washing, and a comb and a brush attached together by a string and used sans ceremony by all comers and goers. In addition, papers, daily and weekly, local and from different parts of the Union, stood about in charming profusion, the walls covered with advertisement of elections, fairs of stages and steamboats, auctions, sales of land, sales of stocks, sales of everything that can be sold. At the same time, the muted tones of the painted walls, the printed images, broadside, and notices in the card players ensured that the very specific local details would only be perceptible at close inspection. The Baltimore Front Street Theater could only be read by an attentive observer, the Baltimore-Washington stage schedule, and the Polk election notice as well. Woodville's ability to create a convincing sense of space was crucial to the painting's success with American audiences, in particular with the American Art Union, who openly promoted, I quote, the development of national character and encouraged American artists to represent scenes and transactions which distinguished this country from all others and which showed that the artist had, again, I quote, successfully, faithfully studied nature around him rather than copying it in second hand out of the production of foreign painters. And to a certain extent, we can wonder how there is a comparison between Bingham and Woodville's style in that quote. Even though painted from abroad, the sharp clarity of Woodville's visual description was a hit. It seemed to perfectly answer the American Art Union's call for works of art that demonstrated a close observation of American reality. The Union was delighted. Its critique praised the painter's ability to grasp the essence of American everyday character and incident and present it, I quote, with much vigor and completeness without any undue striving after startling effects. While Woodville's tight brush strokes conveyed the materiality of objects and people in an apparently effortless and objective visual report from the scene, his pictorial description of printed materials in the background also created a temporal disjunction at odds with the scene's apparent lucidity. The juxtaposition of a Baltimore-Washington stagecoach schedule hanging on the barroom door with a notice alluding to post-election campaign of 1845 at the opposite end of the room contradicts the apparent simplicity of Woodville's composition. By 1845, the railroad had long displaced stagecoaches to smaller local routes on the East Coast, and Baltimore-Washington stagecoaches were something of the past. Instead of background information giving the spectator a grounded sense of place, Woodville's painted ephemera become the marker of the painting's real game of deception, belying the entire composition's careful illusionism and doubling the representation theme of confidence games and trickery, but now exercising it at the expense of the viewer's senses rather than on the protagonist of the scenes. Through its representation of print culture, the card players calls attention to the deceptiveness of representation and visual narrative. The world of painting is certainly one of illusion, a world of random encounters between strangers who can only rely on external appearances to decide whom to trust and what to do next. But it now includes the viewer as well. We have seen now how two different painters of genre scenes made the relationship between printed and painted images a central aspect of their artistic practice. Bingham used the expansion of the European publishing industry in the United States to reconsider what the representation of American Western type in their daily activities might accomplish. Genre painting became for him a medium in translation, that is a medium allowing the painter to envision and produce a composition in various material forms that would transcend Eastern cultural bias and enact the national relevance of his work. A seemingly innocuous representation of boatmen enjoying their ride on the Mississippi could thus become, as lithographic print, the political agenda of Whig propaganda. Conversely, a typically Western election scene could take on additional significance as a historical picture. In both cases, Bingham's art of the everyday presented images turned towards the future, images that ignored or at best subsumed the rich and sometimes conflicted confluence of culture in which he actually worked, but also images that attempted to shape American destiny itself, either as political prints propagating the Whig agenda or as the long-term vision of American history in print. While he was not successful during his lifetime, he remained a Missouri artist and his patron base mainly located in the Mississippi Basin. The rediscovery of his paintings during the 1930s, a time where the frontier thesis of Frederick Jackson Turner held sway, set in motion the very interpretation he had hoped for in his pictures, once they would be translated in print. Since then, the artist has largely been interpreted in Turnerian terms. Recovering the cultural and political negotiation that drove Bingham's artistic engagement with the translation of his paintings into print allows us to understand how the painter pushed the visual art's ability to negotiate the cultural and political tensions between the regional community he wanted to imagine and the national community he wanted to belong to. Bingham envisioned the artwork as an active force in the American public sphere. In other words, Bingham's paintings and his prints can be seen as what Alfred Gale has described as the distributed agency of the artist. In contrast, Woodville expressed skepticism vis-à-vis the possibility of national representation. He gave a prominent role to printed images and ephemera in the background of his interior spaces, juxtaposed with precisely described objects in order to invite the viewer's close attention to the detailed material world of everyday life. But in so doing, he inscribed his scenes with a formal disjunction that reminds us of the power of the work of art to create bridges, but not bridges with the past, rather bridges with the artist's meditation on the world of 19th century American life, visually and materially present in the encounter with the work of art. Anticipating their own receptions in the present, Woodville's scene of everyday life ask us to reconsider the condition of historical interpretation. Thank you.
Thank you very much. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a donné des éléments de compréhension à la fois large sur la dissémination des en effet, de ce que Stephen Bann a expliqué dans le Parallel Lines, mais aussi en étudiant ça par rapport à deux études de cas, la façon dont les artistes aux États-Unis se sont emparés des différents médiums, des différentes techniques graphiques pour diffuser leur art. Je pense que le programme nous incite à enchaîner les deux communications. Donc on va peut-être réserver les questions pour tout à l'heure. Et je vais maintenant vous présenter Jean-Philippe Antoine que je connais bien parce qu'il est souvent venu présenter ses recherches passionnantes dans notre séminaire avec Claude Imbert à l'ENS. Et donc Jean-Philippe Antoine enseigne l'esthétique et la théorie de l'art contemporain à l'université Paris 8. Sa thèse Ars Memoriae, images, espaces, figures en Italie, 1250-1450, portait sur les relations entre l'essor des arts de la mémoire et les transformations de l'espace pictural dans l'Italie du XIIIe au XVe siècle. Il a par ailleurs, donc il a commencé en travaillant beaucoup sur cette question des arts de la mémoire, et il a par ailleurs publié sur des artistes très contemporains La traversée du XXe siècle, Joseph Beuys, L'image et le souvenir aux éditions du MAMCO, le musée d'art contemporain de Genève et aux presses du Réel, et aussi un ouvrage sur Brotart, évidemment très intéressant par rapport à notre sujet de ce matin. Moule, muse, méduse, presse du réel 2006. Également un recueil consacré à l'histoire et à la théorie de l'art, farce et attrape, inventer les images, qui doit paraître aussi aux éditions du MAMCO, en même temps que sa traduction, dont il va probablement nous parler un petit peu, des conférences sur l'affinité de la peinture avec le reste des beaux-arts de Samuel Morse, toujours aux presses du réel. Jean-Philippe Antoine est un plasticien, il mène des travaux sur des supports multiples, la peinture, des constructions, des installations, des conférences et des performances sonores en collaboration avec Lef Elgren et Michael Levin. Et il a publié chez Firework Edition Records The Worried Ones, Levat 64 en 2013, Nouvelle musique ancienne, un CD de 2011 et Objet métal esprit en 2010, et il prépare un nouveau disque intitulé « Oui » à apparaître à l'automne 2017. Donc la communication que va présenter Jean-Philippe s'intitule « Londres, Coleridge et l'art neuf de la conférence, le projet transatlantique des Lectures on the Affinity of Painting with the Other Fine Arts » de Samuel Morse. Et il n'a pas été mentionné, mais il a travaillé évidemment sur Morse et le tableau La Galerie du Louvre, qui a été publié justement par la Fondation Terra. Donc c'est dans la continuité, je suppose, de ce travail précédent sur Morse que tu vas intervenir.
Oui, oui.
Merci et merci Sigolène pour cette généreuse présentation. Merci à Francesca et à François et à l'ensemble des organisateurs de ces deux journées qui s'annoncent passionnantes déjà. Et si ces journées vont s'occuper beaucoup de la circulation des objets matériels, c'est à quelques autres aspects que je voudrais m'intéresser ce matin, aux aspects des conditions qui, en amont, régissent cette circulation. Et j'explorerai en même temps un domaine distinct que l'évidence qu'il possède aujourd'hui rend presque invisible, l'art de la conférence. Voilà. Aujourd'hui, nous en sommes un témoignage vivant. Et tout spécialement l'art de la conférence d'artistes. Le cas que je vais étudier présente l'intérêt de ne pas seulement mettre en lumière la réalité des effets produits par la circulation des idées et des personnes, en l'occurrence transatlantique, mais aussi d'indiquer le lien étroit qui unit circulation et invention. L'invention, j'espère vous en convaincre, est avant tout métaphorique, et cela, si j'ose dire, au sens le plus littéral du mot, elle est un transport, un déplacement. Et j'analyserai aujourd'hui la fabrication et la tenue à New York au printemps 1826 d'une série de quatre conférences intitulées Lectures on the Affinity of Painting with the Other Fine Arts, que j'ai traduit conférence sur l'affinité de la peinture avec le reste des beaux-arts. Ces conférences ont été données par Samuel F.B. Morse. Morse, on le sait, est avant tout connu comme l'inventeur du télégraphe et du télégraphe électrique et du code qui porte son nom. Il fait partie avec Benjamin Franklin, Robert Fulton, Thomas Edison, Graham Bell ou encore les frères Wright, de figures nationales de l'invention que connaît tout écolier américain. Il est moins connu pour ce qui a été son activité principale, au moins pendant les 20 premières années de sa vie d'adulte, la peinture, sauf une nouvelle fois à la Fondation Terra, puisque c'est l'achat par Daniel Terra en 1982 de sa Gallery of the Louvre qui a, si j'ose dire, relancé de manière posthume la carrière de peintre de Morse. Enfin, il est encore moins connu pour l'activité qui a pourtant accompagné tout au long son ambition de peintre, celle d'un théoricien et organisateur de l'activité picturale et des arts à New York. Les conférences que je viens de citer en sont la trace principale, mais elles ont très vite disparu du débat public, faute de publication. Leur édition tardive en 1983, dans la belle édition qu'en a procurée Nikolai Sitkovski Jr., n'a suscité que l'incuriosité d'un public d'historiens ou de théoriciens d'art qu'aurait pourtant dû intriguer l'apparition d'un objet très neuf pour son époque, une série de conférences données aux États-Unis par un peintre américain et à destination du grand public. Certes, des discours avaient été prononcés à intervalles réguliers aux États-Unis depuis leur indépendance pour tenter d'évaluer la place que devaient occuper dans la jeune République américaine les arts et les beaux-arts. Mais ces discours étaient le fait d'hommes politiques ou de notabilités plutôt que d'artistes professionnels. Et ils se concentraient sur la question avant tout politique que posait la place accordée ou pas accordée à l'activité artistique dans la nation très neuve et à bien des égards toujours coloniale qu'étaient les États-Unis. Or, si Morse n'ignore pas entièrement ces questions, en particulier dans les premières et quatrièmes conférences, celles-ci intègrent chez lui une problématique simultanément plus étroite et plus vaste, constituée à partir de son expérience d'artiste. Cela suffit pour distinguer très fondamentalement son discours de ceux qui l'ont précédé, comme l'artiste en avait parfaitement conscience. Quelques mois avant la date prévue pour son intervention publique, il écrivait à ses parents « Ces conférences ont pour moi une grande importance, car en cas de réussite, elles me donneront une place unique parmi les artistes. Je serai le seul aujourd'hui dans notre pays à avoir écrit une série de conférences. Le temps qu'il aurait consacré, en conséquence, n'est pas gaspillé, car elles me vaudront une réputation, elle-même productrice de richesses. » Certes, les quatre conférences prononcées dans les premiers mois de 1826 sont partie prenante d'entreprises plus vastes, renforcer la place unique parmi les artistes que Morse était alors effectivement en voie d'acquérir. Il avait récemment obtenu du conseil municipal new-yorkais la commande d'un portrait monumental du général Lafayette, un des derniers héros vivants de la Révolution américaine, alors en tournée triomphale aux États-Unis pour fêter le cinquantenaire de la Déclaration d'indépendance. L'obtention de cette commande, en compétition avec plusieurs des peintres les plus en vue de l'époque, avait scellé son admission parmi les artistes en vogue. La confection de ce portrait héroïcisé promettait aussi de favoriser son passage vers la peinture d'histoire, longtemps désirée et trop longtemps retardée par la nécessité alors absolue de se consacrer à la corvée du portrait, pour reprendre le mot de Thomas Sully, un des contemporains de Morse. Par ailleurs, les mois précédents avaient vu l'avancée considérable du second projet depuis longtemps caressé par le peintre, la fondation aux États-Unis d'une organisation professionnelle d'artistes autogérée sur le modèle de la Royal Academy anglaise. Une American Academy of Fine Arts existait à New York depuis 1802, gérée par de riches amateurs d'art, hommes d'influence de la société new-yorkaise de l'époque. Des efforts avaient été faits en 1816 pour la réformer et en faire un véritable lieu d'enseignement de l'art destiné aux artistes. Mais bien que présidé depuis cette même date par un peintre, John Trumbull, déjà cité, l'American Academy of Fine Arts demeurait avant tout un club de riches collectionneurs. Elle ne dispensait ni cours organisés à destination des artistes ou d'un public plus vaste, ni prix. Elle n'organisait pas d'exposition régulière de ses membres et privilégiait la suggestion de l'art américain à l'art européen. C'est pour modifier ces pratiques et en réaction au refus du président de l'American Academy of Fine Arts d'accorder aux apprentis artistes l'usage régulier de l'atelier de l'académie que Morse a fondé en novembre 1825 la New York Drawing Association, qui organisait au profit de ses membres des séances de dessin trois fois par semaine. Au bout de deux mois, une rencontre entre membres des deux organisations tenta de négocier l'intégration de la seconde à la première, mais le refus de Trumbull d'admettre des artistes dans son bureau provoqua la rupture. Morse fonda alors, avec plusieurs de ses pairs, la National Academy of Design, qui existe toujours, sur des bases coopératives entièrement différentes. Gestion de l'organisation par des artistes élus par d'autres artistes, création d'une école et d'un atelier muni de copies de sculptures en plâtre pour pratiquer le dessin d'après l'antique, conférences d'artistes, de professeurs d'anatomie et de perspective, et enfin exposition annuelle des œuvres des membres dans le but de couvrir les frais de fonctionnement de la société. L'ambition nationale de la National Academy of Design la distinguait par ailleurs d'autres sociétés équivalentes comme la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, d'ambition beaucoup plus locale. On le comprend, les conférences du printemps 1826 avaient pour destination de couronner l'édifice pictural et institutionnel neuf que Morse paraissait alors en voie d'achever. Et de fait, jusqu'à ce que Washington Allston rédige ses propres Lectures on Art, Morse est bien resté le seul artiste américain à avoir rédigé un cycle de conférences, et il a longtemps été le seul à en avoir prononcé en public. Mais le caractère effectivement unique de cet objet a trop longtemps dispensé d'en évaluer l'originalité réelle. Il a en effet conduit, comme y invitait trop volontiers son auteur, à le considérer isolément, au mépris du cadre plus vaste à l'intérieur duquel il s'inscrit. Si le contexte immédiat des conférences est bien celui de l'ascension sociale de Morse en tant que peintre et figure de la vie culturelle new-yorkaise dans la deuxième moitié des années 1820, la forme, aussi bien que le contenu des lectures, doivent s'envisager comme parachevant une visée élaborée dans la quinzaine d'années qui les précèdent. Le séjour de 4 ans effectué entre août 1811 et août 1815 en Angleterre par Morse, donc entre ses 20 et 24 ans, joue à cet égard un rôle primordial, et cela sur de multiples plans. Il démontre, entre autres choses, que cette entreprise artistique nationale est avant tout internationale. Elle repose en effet sur une série de transferts et de relations entre l'Angleterre et les États-Unis, sans lesquelles elle devient tout simplement impensable. L'éducation esthétique de Morse, démarrée dès ses années de collège à Yale, avait été d'emblée placée sous un signe anglophile. Il a dès cette époque vraisemblablement eu un premier contact avec les discourses de Joshua Reynolds et fait ses premières armes en rédigeant une dissertation sur la beauté qui emprunte beaucoup aux Essays on the Picturesque de Irvedale Price. C'est cependant lors de son séjour anglais ultérieur que se mettent en place la plupart des éléments primordiaux de sa réflexion. Comme l'indiquent les textes et les auteurs que cite ou déploie de façon implicite le texte des conférences, auteur subtilement repéré pour la plupart par Nikolaï Sikorski dans son édition moderne. Mais je voudrais insister aujourd'hui, plus que ne l'ont fait mes rares prédécesseurs, sur les circonstances de la découverte de ces textes, comme sur l'existence d'une conversation esthétique contemporaine à laquelle Morse a souvent participé sans qu'il en reste de traces écrites autres qu'indirectes. Lorsque le jeune Morse arrive à Londres en août 1811, c'est dans les bagages d'un autre peintre de Boston, par ailleurs poète et écrivain, le déjà nommé Washington Allston, à qui ses parents avaient confié leur fils, dans le but, je cite une lettre du père, dans le but de le placer dans la situation la plus avantageuse pour qu'il atteigne l'éminence dans sa profession. Le caractère avantageux de la situation avait trait à l'existence dans la capitale anglaise d'une institution moderne et prestigieuse d'enseignement de l'art, la Royal Academy, fondée une cinquantaine d'années auparavant par Joshua Reynolds, son premier président, avec la collaboration de Benjamin West, son actuel président, américain, peintre du roi et ami personnel de ce roi, George III. Il avait aussi trait à l'existence d'un important marché de la peinture. Il avait enfin trait au parrainage d'Allston, qui avait, entre 1801 et 1803, parfait son apprentissage de peintre à la Royal Academy, sous l'égide de Benjamin West, avant de passer les 5 années suivantes en France puis en Italie. En s'inscrivant à la Royal Academy, grâce à l'intervention conjointe de West et de Heinrich Füssli, qu'il fréquentera également avec régularité, Morse mettait donc ses pas dans ceux d'un aîné familier des institutions artistiques londoniennes, avec le bénéfice de conseils presque quotidiens. La fréquentation intensive d'Allston a eu pour effet immédiat de placer Morse au cœur d'un milieu artistique et littéraire très actif. Il était logé dans le quartier américain qu'était alors Marylebone, en plein centre de tous les artistes de Londres, et il y est bientôt rejoint par un jeune peintre de Philadelphie, Charles Leslie, leur appartement-atelier devenant le point de ralliement d'un cercle d'artistes, poètes et écrivains qui comprend, outre Allston, Morse et Leslie, Charles Burt King, peintre américain, Charles Lamb et surtout Samuel Taylor Coleridge, que vous voyez ici dans le portrait qu'en fait en 1814 Washington Allston. De retour à Londres, Allston avait en effet immédiatement renoué avec le poète qu'il avait rencontré à Rome en 1805 et avec qui il était très vite devenu ami et, je dirais, partenaire intellectuel. L'arrivée du petit groupe d'Américains à l'automne 1811 a fourni à Coleridge un milieu amical et intellectuel qui constitue durant cette période un de ses principaux soutiens. Et il ne fait pas de doute que Morse et Leslie ont jusqu'en 1814 été parmi les plus constants bénéficiaires de la conversation du poète et penseur, à un moment où son activité était presque entière concentrée sur la critique esthétique. Une anecdote rapportée par James Winner donne un exemple significatif de ces interactions comme de leur régularité. Je cite. Coleridge, qui était un familier des appartements de Leslie et Morse, faisait fréquemment son apparition sous l'empire de ces accès d'abattement auxquels il était sujet. Lorsque c'était le cas, selon un plan préconçu, il le faisait souvent sortir de cet état d'abattement pour l'amener vers un autre de brillante imagination. Je souhaitais justement vous voir, déclara Morse à l'une de ces occasions, où il était entré d'un pas hésitant et avait répondu à leur salutation franche par une mine funèbre et de profonds soupirs. Leslie et moi, nous sommes disputés à propos de certaines lignes de beauté. Qui a raison ? Puis chacun d'eux discuta avec l'autre un certain temps, jusqu'au moment où Coleridge manifesta son intérêt et, sortant de son accès d'abattement, discourut sur le sujet avec une éloquence et une profondeur de raisonnement métaphysique qui dépassait de loin la compréhension de ses auditeurs. Ils avaient toutefois gagné et Coleridge était redevenu l'être éloquent, profond et doué que révèlent ses productions remarquables. Fin de citation. Il existe peu d'autres traces de ces conversations et la mention des lignes de beauté hogarthiennes fournit la seule indication exacte d'un de leurs sujets, mais leur tenue régulière ne peut se séparer de ce qui constituait alors pour Coleridge sa source principale de revenus, à savoir son activité de conférencier. La première décennie du XIXe siècle avait vu essaimer et proliférer à Londres des cycles de conférences qui mettaient en place des modèles neufs de sociabilité comme aussi de transmission des connaissances. Dû pour l'essentiel à l'initiative de sociétés savantes privées comme la Royal Institution, la London Philosophical Society ou encore la Surrey Institution, pour nommer trois institutions directement impliquées dans les conférences de Coleridge, ces cycles participent d'une volonté de démocratisation et de publicité nationale des savoirs que les conséquences de la Révolution française et tout particulièrement la guerre avec la France napoléonienne avaient exacerbé, tout en leur donnant des formes différentes de celles en vigueur sur le continent européen. Ces cycles participent aussi d'une spectacularisation neuve de l'activité scientifique et de pensée dans des lieux souvent bâtis expressément pour recevoir le public nombreux qui s'y presse. Les conférences du John Humphrey Davy, destinées à populariser les récentes découvertes de la chimie moderne, voire à les faire directement connaître du public, en particulier les 5 Bakerian Award Lectures qu'il donne à la Royal Institution entre 1806 et 1810. Cette planche de Rawlinson montre Davy en 1810 en action. À la Royal Institution. Donc, ces conférences fournissent le meilleur exemple de cette configuration neuve. Elles conjuguent exigences scientifiques et divertissements spectaculaires au profit d'un public certes majoritairement aristocratique et bourgeois, mais déjà vaste et mélangé. Depuis son retour d'Italie en 1806, Coleridge avait ajouté à ses activités journalistiques la tenue régulière de cycles de conférences avec des succès divers mais souvent notables. Au début des années 1810, il était assis à Londres, après Davy, le plus populaire praticien de cet art théâtral neuf. Les cycles qu'il organise et donne entre 1808 et 1814, le premier à la Royal Institution à l'initiative directe de Humphrey Davy, constituent le cœur de son labeur intellectuel à cette époque, et le séjour anglais de Morse coïncide avec une de ses périodes d'activité maximale dans ce domaine. De novembre 1811 à janvier 1812, le poète donne à la London Philosophical Society une série de 17 conférences sur Shakespeare et Milton pour illustrer les principes de la poésie. Puis au printemps de l'année suivante, à Willis's Rooms, une nouvelle série de 6 conférences sur le drame en Europe. À l'automne encore, une autre série de 12 à la Surrey Institution sur les belles lettres, dont la première est consacrée aux principaux concepts esthétiques et les deux suivantes à examiner l'origine des beaux-arts. À l'automne 1813 également, Coleridge donne plusieurs séries de conférences à Bristol et Clifton consacrées à Shakespeare, à l'éducation, mais aussi en partie aux beaux-arts. Morse a sans aucun doute assisté à plusieurs des conférences données par Coleridge à Londres durant l'automne 1812. Certes, elles ne sont pas mentionnées dans sa correspondance, mais le nom du poète ne l'est jamais pour des raisons qui tiennent au caractère sulfureux qu'aurait revêtu pour la famille du peintre l'évocation d'un ancien dissenter et actuel mangeur d'opium. Étant donné les relations de proximité amicale et géographique qui liaient l'ensemble des participants au club informel que constituaient les visiteurs ordinaires de l'atelier de Morse et de Leslie, c'est plutôt l'hypothèse d'une absence totale de Morse à ces conférences qui devient peu vraisemblable. Il est ainsi présent le 23 janvier 1813 au Theatre Royal de Drury Lane lors de la première de Remorse, la pièce de Coleridge qui constitue sans doute son plus grand succès public et qui lui confère le statut d'auteur dramatique, et cela 3 jours tout juste avant la fin de ses conférences à la Surrey Institution. Le jeune Samuel Morse fait enfin partie de la cohorte de Washington Allston lors du séjour de ce dernier à Bristol pendant l'été 1814, de nouveau à l'initiative de Coleridge, au moment où celui-ci rédige ses « Essays on the Principles of General Criticism » dans le but de publiciser l'importante exposition de peinture qui présente Allston. Morse demeure à Bristol durant l'automne et une partie de l'hiver 1813-1814. Il a donc pu assister aux conférences sur Shakespeare données par Coleridge au White Lion de Bristol, d'octobre à janvier, voire à celle donnée en novembre à Clifton, où la présence de Charles Leslie est, elle, expressément assurée. Il peut paraître étonnant d'insister à ce point sur la connexion qu'entretient Morse avec Coleridge. Seules les conversations d'atelier que j'ai mentionnées plus haut sont établies de façon positive, et, circonstance aggravante, le contenu des conférences contemporaines de Coleridge est accessible uniquement par le biais de comptes rendus sténographiques, d'articles de journaux et de correspondances diverses. Parmi ces conférences, celles qui portent spécifiquement sur les arts sont de surcroît les moins documentées. Mais outre le fait qu'il est difficilement imaginable à la lecture des conférences de Morse, quand les rédigeants ne se soient pas souvenus des Essays on the Principles of General Criticism, j'y reviendrai dans un petit moment, c'est la forme même que prennent les conférences du poète anglais qui apparaît comme le seul précédent plausible pour celui de Morse. Avec lui, en effet, une théorie critique des arts, et tout particulièrement un discours sur le statut de la peinture parmi les autres arts, jusque-là adressé exclusivement à un public de professionnels, se voit transféré vers le domaine neuf de la conférence, avec les changements d'adresse publique et de problématiques qu'emporte ce transport. Or, ce sont précisément ces nouveautés que Morse va quelques années plus tard tenter d'importer dans le contexte encore plus neuf des États-Unis. Certes, les références explicites que font les conférences de 1826 aux Discourses on Art de Joshua Reynolds, et plus encore la posture qu'adopte Morse avec les fondations de la National Academy dans les mois qui précèdent, paraissent d'abord situer son entreprise dans la foulée du peintre et théoricien anglais, comme semblerait le confirmer sa conférence de 1827 sur les Academies of Art, qui a pour principaux destinataires les premiers étudiants de l'Académie. Mais plus que l'adresse des discours de Reynolds, qui visait un public de professionnels des arts, c'est justement l'adresse des conférences de Coleridge qu'évoque le plus directement la série new-yorkaise de 1826. Et la liste des ressemblances commence avec l'institution à laquelle elles étaient destinées et dans le cadre de laquelle elles ont été prononcées, le New York Athenaeum. Le but des fondateurs de cette société, un groupe de prominent gentlemen réunis en 1824, était d'établir à New York, je cite, « une institution pour la promotion de la littérature et de la science » afin de remédier à une absence ressentie comme dommageable pour la réputation de leur ville. Ce but, tout comme la forme prise par l'institution, une société par action, et ses activités, l'organisation de cours, de conférences, d'une bibliothèque et d'une collection d'art, ce but signale la parenté du New York Athenaeum avec les 10 000 institutions, je cite ici un mot de Charles Lamb, qui avaient fleuri dans les principales villes anglaises depuis les premières années du siècle, parenté soulignée par ailleurs par son jumelage en 1825 avec la Liverpool Royal Institution. À une importante différence près, alors que la Royal Institution avait pour but, je cite, « la diffusion générale d'un esprit d'enquête expérimentale et d'amélioration parmi les classes supérieures de la société », un des fondateurs du New York Athenaeum, le juriste Henry Wheaton, indiquait, lui, dans son adresse inaugurale, que, je cite, « toute la prospérité que nous pouvons espérer dépend de la suprématie de l'esprit, de la culture de l'intelligence, de la diffusion de la connaissance et des arts, non seulement auprès d'un petit nombre d'élus, mais auprès de cette immense multitude qui s'est vue à la fois investie des privilèges de la liberté et des prérogatives du pouvoir. » Toute résonance avec notre contemporanéité est un pur accident. La revendication politique d'une vaste diffusion démocratique du savoir, qui fait partie des attendus du New York Athenaeum, informe l'attitude de Morse. Son dessein est de mettre ses conférences au service de l'éducation d'une vaste cohorte de classe moyenne, hommes et femmes, que l'activité éducatrice de l'Athénéum a pour but d'accroître, et cela dans la mesure exacte où, je cite, « un goût raffiné dépend de la sensibilité pour son acuité, du jugement pour sa correction, et son progrès vers le raffinement est en proportion exacte de l'activité de l'esprit, de l'étendue de ses observations et de l'amélioration générale des connaissances. » La conférence que donne Morse en 1827, pour le premier anniversaire de la National Academy of Design, dessine à partir de ce type de prémisse le projet d'une spirale virtueuse du goût public que l'Académie a pour vocation expresse d'enclencher jusqu'à former une véritable opinion publique en matière d'art. Dans le premier de ses Essays on the Principles of General Criticism, Coleridge déclarait déjà « L'objet spécifique de la présente tentative est de rendre le spectateur capable de juger dans un même esprit que celui qui gouverne la production de l'artiste, ou qui devrait la gouverner. » Cette idée que la théorie critique a pour rôle d'effacer toute distinction tranchée entre spectateur et producteur de l'œuvre, en permettant l'accession du premier au principe que met en œuvre la production du second, et symétriquement en fabriquant une communauté éclairée des arts, continue d'habiter les conférences morsiennes. La question de la constitution d'un public éclairé, susceptible de donner des buts légitimes à l'artiste, entre en particulier la dernière partie des premières et quatrièmes conférences. Médium complexe, commun à la production et à la réception artistique, le goût ainsi conçu efface en fin de compte toute distinction tranchée entre artiste et public. Dans l'abrupte conclusion qu'il donne à la quatrième et dernière conférence, entièrement consacrée à la peinture, Morse, anticipant l'appel aux bourgeois qui ouvre le salon de 1846 de Baudelaire, ira d'ailleurs jusqu'à octroyer asymétriquement au public le dernier mot en matière d'ambition artistique. Dans ce vaste projet de formation aux États-Unis d'une opinion publique artistique, la tenue des conférences occupait donc, on le voit, une place insigne. Mais pas plus que le projet d'une académie, celui des conférences n'était en 1826 vraiment neuf. Dès le début de 1816, après son retour d'Angleterre, Morse avait été sollicité par un ami new-yorkais en vue d'enseigner dans une académie qui n'a finalement pas vu le jour. Et en 1820-1821, lors du dernier des séjours hivernaux qu'il effectuait depuis 1818 à Charleston, en Caroline du Sud, pour y peindre les portraits de la bonne société locale, il avait caressé l'idée de fonder une académie et d'y adjoindre un cycle de conférences sur les beaux-arts. Une lettre à sa femme donne un aperçu significatif de sa manière d'associer les deux projets, tout en indiquant explicitement leur lien avec son séjour anglais. Je cite, « Je crois que ce serait un bon projet que d'ouvrir une académie, ou plutôt une école de peinture et de sculpture à New Haven, en partant de ma connaissance des méthodes adoptées en Angleterre et dans d'autres pays. Je gérerais un établissement de ce type sans doute mieux qu'aucune autre personne susceptible de se sentir disposée à diriger une telle chose dans ce pays. Si je pouvais avoir de 10 à 13 élèves à $100 par an, cela me donnerait un bon salaire, spécialement si je pouvais y ajouter les recettes non négligeables d'une série de conférences sur les beaux-arts, pour laquelle j'ai d'amples matériaux et que je pourrai, j'en suis certain, rendre très en vogue. J'occupe à propos mes présentes soirées à l'abrégé du projet de ces conférences avec tout le succès que je pouvais espérer. Il me faudra passer du temps à la préparation de ces conférences qui, une fois terminées, seront, comme d'autres conférences, une source de profit toute ma vie sans effort supplémentaire. En août 1823, tout juste avant sa première tentative d'installation à New York, Morse travaille à des allusions et remarques sur la peinture et les beaux-arts en général, et aussi plus particulièrement en référence à une série de conférences sur les beaux-arts. Leur rédaction indique son regain d'intérêt pour une entreprise destinée à lui procurer à la fois de l'argent et une réputation. C'est pratiquement les mots de Coleridge parlant de ses conférences londoniennes. Comme le fait remarquer Nikolaï Sikorski, la liste de sujets alors envisagés par le peintre reflète le type de conférences que Fuseli, Barry et Opie donnaient à la Royal Academy. À ce titre, elle témoigne de ses lectures en cours, beaucoup plus que du projet finalement adopté. Les pensées et observations sur les beaux-arts, plus particulièrement sur la peinture, de manière déconnectée, comme elles me sont venues à diverses périodes, anticipent, elles, plus directement le travail d'écriture des conférences, en particulier par leur insistance sur l'originalité de la situation américaine. Mais de façon générale, les notes fragmentaires, souvent difficiles à dater, qu'abritent les archives de la National Academy of Design et la Bibliothèque du Congrès, indiquent surtout les hésitations continues du peintre quant au sujet exact que devraient traiter les conférences et quant à la forme qu'elles devraient prendre, en l'absence d'une institution à quoi les rattacher et d'un public déterminé devant qui les donner. Morse avait donc déjà plusieurs fois tenté d'établir et de promouvoir seul le cycle de conférences sur les beaux-arts dont il ruminait la confection depuis son retour d'Angleterre, sans y réussir, faute de soutien institutionnel. Dans ce contexte, on mesure l'importance qu'a revêtue pour lui sa participation à l'institution qu'a été durant sa courte période d'activité, le New York Athenaeum. S'il ne faisait pas partie des fondateurs de la société, tous gens de lettres, notables ou hommes d'affaires, Morse s'est très vite rapproché d'elle dès son arrivée à New York, devenant l'un des meilleurs amis du poète et journaliste William Cullen Bryant, autre récente arrivée dont il peint un beau portrait en 1825, que voici, et fréquentant plusieurs des littérati et savants qui en étaient les collaborateurs réguliers, nombre d'entre eux d'ailleurs professeurs à Columbia College. Morse deviendra même le secrétaire archiviste de l'Athénéum pendant quelques années. En intégrant au cycle de conférences qu'organisait l'Athénéum celui qu'il avait longtemps projeté et toujours retardé, Morse rejoignait la logique multidisciplinaire des arts et des sciences dont il avait fait l'expérience à Londres et à Bristol et que visait à reproduire localement la nouvelle société new-yorkaise. Le premier plan des conférences publié par les fondateurs de l'Athénéum prévoyait ainsi pour l'année 1825 d'explorer une quinzaine de matières allant de l'histoire du droit civil à la chimie élémentaire et appliquée ou à la mécanique, en passant par la zoologie, les littératures grecques et orientales, l'éloquence, l'architecture et la peinture. Cette logique pluridisciplinaire, que revendiquent expressément les paragraphes de la deuxième conférence de Morse consacrée à la relation de connexion, structure l'ensemble du cycle. Par ailleurs, si deux types de conférences, d'une part des discours publics confiés à des hommes de l'art et destinés à rendre un compte détaillé des progrès les plus récents dans les arts et les sciences, d'autre part, des conférences populaires, dites d'intérêt général, ouvertes à tous et à toutes, avaient été soigneusement distinguées dans les statuts. Seules les secondes, les conférences populaires, ont été réellement organisées, et c'est ce type d'adresse qui régit l'intervention de Morse, destinée à l'ensemble de la bonne société new-yorkaise, sans distinction de sexe. C'est sans doute au souvenir, conscient ou pas, qu'éveillait le cadre à la fois neuf et familier de l'Athénéum, que l'on doit le choix du sujet et le plan finalement adopté par Morse. Ils évoquent sans conteste plusieurs aspects des Essays on the Principles of General Criticism rédigés par Coleridge et parus en feuilleton à Bristol à l'occasion de l'exposition de Washington Allston dans cette même ville en 1814. Outre la division en quatre parties ou essais, c'est le sujet même adopté par Morse qui reprend, de manière originale, ce qui constituait déjà chez Coleridge une tentative neuve, quoique inaboutie, de réflexion sur un sujet presque inédit, les rapports de la peinture avec le reste des beaux-arts. j'insiste, c'est en fait un sujet qui n'a pratiquement jamais été abordé en tant que tel, contrairement à ce que nous pourrions croire. Si Morse avait régulièrement tergiversé sur le plan à donner à ses conférences, c'est d'abord parce qu'il continuait de se tenir informé de la littérature critique la plus récente. Ses notes et les conférences convoquent la lecture d'essais de James Elmes et William Hazlitt, parus après 1820, ou encore de George Field, dont la théorie de la couleur informe la quatrième conférence. Dans une série de notes manuscrites portant sur le contenu de la conférence inaugurale, figure comme possible sujet, je cite, « la relation ou ressemblance des beaux-arts les uns avec les autres », mais ce motif est loin d'être privilégié dans une liste où il figure parmi une dizaine d'autres, et le concept d'affinité, qui est central dans les conférences, en est absent. Une note antérieure proposait, elle, de poser comme question directrice « qu'est-ce qu'un tableau ?» La décision finale de donner pour fil conducteur à la série des conférences le motif de l'affinité de la peinture avec le reste des beaux-arts apparaît donc comme le fruit d'une réflexion approfondie. Elle a pour résultat un texte qui contraste avec l'ensemble des traités ou essais esthétiques récents ou contemporains, à l'exception significative des essais de Coleridge. Avec ses essais on the Principles of General Criticism, qu'il considérait à l'époque comme les meilleures compositions que j'ai jamais écrites, Coleridge se donnait en effet pour tâche de réfléchir sur les beaux-arts, en particulier la peinture. L'essai préliminaire commençait par indiquer que, je cite, « tous les beaux-arts sont différentes espèces de la poésie. Le même esprit parle à l'intelligence au travers de différents sens, par une manifestation de soi appropriée à chacun d'eux. » Coleridge distinguait ensuite trois types de poésie, poésie de la langue, à savoir la poésie au sens usuel du mot, poésie de l'oreille, la musique, poésie de l'œil ou graphique, peinture et plastique, sculpture. Il revenait ensuite à l'économie de l'ensemble des quatre essais, je cite. Bien que le titre de ces essais suggère qu'ils ont pour sujet les beaux-arts en général, ce qui, s'agissant des principes généraux, sera réalisé dans la mesure des capacités du présent écrivain, cependant, leur application et leur illustration seront restreintes aux arts de la peinture et de la statuaire, et parmi eux, principalement, à la première, à savoir la peinture. C'est ce programme bifide d'une réflexion consacrée à la fois aux principes régissant les beaux-arts et à la peinture en tant qu'elle en constitue une application singulière qu'adoptent les conférences de Morse, et cela, elles aussi, en quatre sections vouées à explorer les principes qui régissent les beaux-arts et la place qu'ils permettent d'assigner à la peinture. Mais si, déjà chez Coleridge, puis chez Morse, la question de la peinture acquiert valeur d'emblème pour réfléchir au statut des beaux-arts, ce n'est plus à cause du caractère privilégié qui était traditionnellement le sien dans la hiérarchie des arts depuis la Renaissance européenne, et plus particulièrement au XVIIIe siècle, dans le cadre d'une théorie des « sister arts », qui concentrait son attention sur les relations existant entre peinture et poésie. C'est au contraire, et de manière inédite, à cause de la nature et l'extension d'une multiplicité d'arts qui font l'objet en tant que multiplicité d'interrogations neuves, et c'est aussi à cause de la concurrence dans laquelle la peinture entre avec des formes neuves et jusque-là inédites de divertissement spectaculaire. La dette de Morse à l'égard de l'entreprise de Coleridge trouve ici sa limite, comme le montrerait l'analyse détaillée du propos des conférences, en particulier la résistance que manifeste le peintre vis-à-vis de la philosophie romantique allemande si goûtée du poète et que remplace ici, grossièrement parlant, la théologie écossaise du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je ne rentrerai pas plus avant aujourd'hui dans un acte de lecture des conférences qui réclamerait lui-même un cycle propre de conférences que je vous épargnerai, et je me contenterai pour conclure de réaffirmer deux points. Les conférences sur l'affinité de la peinture avec le reste des beaux-arts constituent bien un objet neuf, et cela non seulement aux États-Unis, comme le pensait Morse, mais sans doute aussi à l'échelle européenne. Si l'on prend en compte leur spécificité de conférence didactique sur l'art prononcée par un artiste à destination d'un public non spécialisé, on ne leur trouvera pas d'antécédents véritables, y compris à Londres. À ce titre, il faut donc ajouter à la liste des inventions morciennes celle d'un art de la conférence artistique, ensuite appelé à se développer, et auquel il donne d'emblée une forme originale. En témoigne le recours, à la fin de la troisième et tout au long de la quatrième conférence, à des accessoires, des images imprimées, des gravures, directement offertes à la vue du public et commentées par l'orateur, ce qui, à ma connaissance, est une première. En même temps qu'une transposition dans le domaine des arts, de l'usage d'accessoires, de scènes qui caractérisaient les nouvelles conférences scientifiques. Mais, deuxième et dernier point, cette originalité et ce caractère premier ne se laissent pas penser à l'écart de l'entreprise de transposition dont il résulte. L'invention de la conférence artistique est en effet avant tout l'importation aux États-Unis des formes d'invention récentes dont Morse avait fait l'expérience en tant que public, et je dirais public privilégié, à Londres entre 1811 et 1815. Et cette invention fait elle-même résonner une première entreprise de transposition, celle accomplie durant ces mêmes années par Coleridge, lorsqu'il a, avec succès, appliqué le modèle scientifique neuf des conférences publiques à un matériau littéraire et artistique, jusque-là exclusivement travaillé par d'autres types de discours et d'adresses. Tout autant, sinon plus que le contenu des conférences données par Coleridge sur les arts, auxquelles Morse emprunte avant tout les grandes lignes de son sujet, c'est donc bien ce geste de transposition dont le peintre s'est emparé pour se l'approprier, et c'est dans ce travail que résident les nouveautés tout à fait réelles qu'il a apportées au discours esthétique. Je vous remercie.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de questions. Cette évocation de la conférence adressée, enfin cette question d'adresse que tu as beaucoup soulignée, adressée à un public large et cultivé pour élever le goût, je crois que c'est en effet un grand enjeu, qui se poursuit d'ailleurs tout au long du 19e siècle. Et en fait, là, c'est passionnant de voir les premiers germes de ce type de médium, si on peut dire, parce que par la suite, ça s'est développé avec la lanterne magique, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire de ces conférences publiques et même des traités pour expliquer comment être un bon conférencier qui vont venir. Je vais pas moi-même poser des questions, c'est pas vraiment mon rôle. Je préférerais que ce soit vous qui puissiez les présenter, et donc je donne la parole un petit peu à ceux qui souhaiteraient poser une question. Oui, est-ce que vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît?
Oui, moi c'est Will Slaughter, je suis à Paris Diderot, au Larca. My question is for Marie-Stéphanie, and this all these wonderful different contexts and changes that you outline. I'm wondering if you have a sense of what the role of the illustrated press was, if it was part of this process in the 1840s with the art unions and all of these new configurations, new kinds of patronage, new outlets, and so on. Was the illustrated press used by the same artists? Did they see it as another way of translating their work? Did it present new difficulties, new opportunities?
That's a good question. So in some way, the American Art Union produces its own journal that's illustrated and that does include sometimes some of these genre scenes. I haven't found any proof that Bingham or Woodville did engage with the illustrated press, at least on the East Coast, right? But the problem is to explore. So, for example, for Bingham was involved politically, and he was designing political banners and things like that. So some of the research that could be done would be definitely to look into the illustrated press, the local illustrated press. I don't know exactly when it would start in that corridor. You know, like in the East Coast, there's so much more literature. There is a lot of newspapers published, of course, along the Mississippi, but I'm not sure that they're illustrated.
Thanks to both of the morning speakers. Very rich, very thought-provoking conferences. My question is also for Marie-Stéphanie de la Mer. My name is Hollis Clayson. Hello. My question builds on the comment that Will Slaughter just made. I was wondering if you would be willing to give us a little more precision. The point that you made about Bingham having both, as you put it, a political agenda, and also was at the same time fervently seeking a national audience. I wonder if you could disaggregate the two and say a little bit more about, was seeking a national audience to core the same thing as having a, as you put it, political agenda? What was the actual, what political agenda might you say?
He's as a figure, he's very involved in the local politics of Missouri. He's running for election at some point, and he's elected as a representative. So
the House of Representatives nationally.
He's one of the delegates of the Whig convention at some point. Before that, he runs for local office. He's elected. His friend and patron Rawlins is elected at the national level, and he's the party that he's supporting, the Whig Party, has a very strong national agenda of federal funding for transportation, navigation, et cetera, which is in opposition to the Democratic Party at the time. And in Missouri, it's a connection that I haven't had time to explore in this in the 40 minutes, which was already quite a lot of time. But I think there is a strong division within Missouri between Whig politicians and Democrat politicians, and culturally also it's divided between. I would say members who identify more with middle class and the Eastern origins versus members who identify more with the Creole families.
But vis-a-vis the actual strategies, thematics, iconographies, rhetorics of his pictures, are you actually saying that you can map his political career, his political interventions in the real, genuine public sphere, those are mappable on top of each other?
Do you mean the iconography itself? Or?
Well, I mean the whole, everything that constitutes those pictures. Do they actually play, were they his urge to have translation of his pictures and to distribute them broadly to a national audience, can that literally be mapped onto and reckoned to be an aspect of actual political activity? Is that?
I think so, because for example, we have proof that he was also designing political banners, and there are correspondences between the what we know of those political banners and the kind of iconography he's putting into his paintings. However, I do think that there are some images that are more political than others. I really think that it's not, I think he's a very strongly politically minded painter. So, but I do think that within his artistic practice, some images would have more political content than others.
Okay, thank you very much. It's a topic that could be discussed for a very long time, right? Thank you.
Merci, je suis Vanessa Schwartz. en tant que modèle, on a vu peut-être plus ce modèle d'axe croisé, un modèle de ce qui est transatlantique plutôt que question de circulation. Et je voudrais vous demander en particulier de s'interroger de la France en particulier dans vos conférences, en particulier Jean-Philippe Antoine, parce que quand on regarde l'Angleterre, par exemple, en 1811, on arrive à Londres en 1811, il y a pas mal de Français dans ce milieu anglais, les immigrés, dans les milieux, on peut dire, élevés, précieux, les aristocrates qui sont arrivés quand même à Londres. Mais vous n'avez pas du tout parlé des Français dans ces milieux. Et ça, c'est un problème, je crois, dans la culture et la littérature dite anglophone. Ça veut dire qu'on rate ou on ne parle pas des cultures mélangées. Alors, est-ce qu'il y avait des Français dans le milieu de Morse et cette dite groupe ou colonie, même avant, en particulier, la Restauration? Première question. Mais qui, ça c'est première chose. Deuxième chose, Ségolène a aussi dit les lanternes magiques. Oui, parce que quand vous avez parlé, j'ai pensé absolument au travail de Richard Altuck et aussi de Isherwood. Alors ça veut dire qu'en France, il y avait les démonstrations de ballons et tout ça, avant la Révolution. Ça veut dire qu'il y a tout à fait un discours de conférence. Et même, je crois que Isherwood et Altuck parlent des conférences de l'art pendant le XVIIIe siècle. Alors, je voudrais savoir quelle est la différence entre ce que Isherwood et Altuck a décrit et ce que vous décrivez, parce que aussi c'était complètement dite multimédia ou interdisciplinaire. Alors, je voudrais seulement souligner quelle est la différence. Et aussi, dans votre cas, Stéphanie, la même chose, est-ce qu'il y avait, parce que aussi dans votre contexte, il y a pas seulement il y a les Indiens, mais aussi il y a les francophones, la culture française aussi dans le Nouveau Monde. Donc, est-ce qu'on a une circulation culturelle dans ce contexte? Parce qu'on a aussi toujours ce contexte très anglo et là aussi. Puis, quand on arrive dans l'Ouest aussi, est-ce qu'on a une culture hispanophone aussi que vous avez trouvée?
Alors, concernant la première question, si je n'ai pas parlé de français à Londres concernant Morse, c'est parce qu'en fait, il n'en a quasiment pas vu, ou en tout cas, il ne voulait pas les voir. Mais il y avait une raison assez simple, c'est que les guerres napoléoniennes, en fait, quand il est arrivé à Londres, très vite, il n'a plus été question de pouvoir aller à Paris. Et le grand drame de Morse, d'ailleurs, c'est de repartir aux États-Unis en 1815, sans avoir réussi à convaincre sa famille de le laisser aller à Paris en 1814, alors que, après l'abdication de Napoléon, il redevenait possible d'aller à Paris. Donc il aurait eu très envie d'aller à Paris pour parfaire son éducation de peintre comme il voulait le faire. Il n'a pas pu le faire. Et par contre, à Londres, il fréquente pas des migrés français, il fréquente des Anglais et des Américains. Voilà, c'est comme ça.
Et Fuseli,
il le fréquente aussi à la Royal Academy. Mais enfin, Fuseli n'est pas un peintre français.
Non, non, je
sais. On peut aller assez loin pour revendiquer non. Les gens, mais...
Non, mais en tout cas, du continent, quand même.
Oui, ouais. Du continent, oui. Non, mais il y a des gens du continent à Londres, bien sûr. Mm. C'est une ville, c'est une métropole extrêmement multiculturelle à l'époque. C'est une des villes au monde les plus multiculturelles, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, sur la question de la nouveauté, cette nouveauté que des gens utilisent de la lanterne magique, qu'il y ait des qu'on soit déjà dans un certain nombre de précurseurs de cinéma. Il y a aussi les panoramas déjà. Enfin bon, on vit là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'angoisse concernant le statut de la peinture parmi les arts est une conséquence très très directe. Je l'ai dit juste rapidement à la fin parce que je ne voulais pas rentrer dans le détail de cette question qui obligerait à lire le détail des conférences, et il me semble que ce n'était pas l'objet aujourd'hui. Mais l'angoisse sur le statut de la peinture, elle est liée au fait qu'est-ce que c'est que peindre quand il y a des panoramas, quand il y a bientôt aussi il y aura des dioramas, dans tous les types de spectacles aussi, de divertissement spectaculaire qui cherchent à capter l'attention du public, qu'est-ce que c'est que faire de la peinture? Et la peinture, elle va d'ailleurs très vite dans des modes de spectacularisation qui rivalisent avec les panoramas, compris quand on commence à montrer des peintures avec des éclairages particuliers, qu'on fait jouer des musiciens derrière la peinture, enfin ce genre de choses. Il y a énormément d'effets de spectacularisation, et c'est à cette angoisse que répond déjà Coleridge, qui est un des tout premiers quand même à poser cette question: qu'est-ce que c'est que la peinture? Quel est le rôle de la peinture parmi les beaux-arts? Qui n'est pas une question posée auparavant. Il y a des comparaisons entre la poésie et la peinture, comme les deux principaux sister arts. Mais ça, c'est neuf. Elle est très rare, en fait, jusque-là. Donc, et c'est dans ce cadre-là, enfin, si vous voulez, c'est dans le cadre du nouveau type de conférence que, me semble-t-il, je ne suis pas sûr que ça soit le premier, j'ai dit à ma connaissance pour l'instant, et d'ailleurs je lance des appels, parce que si quelqu'un rencontre ce type de choses, je serais ravi d'amender ce que je dis, c'est avec un point d'interrogation, mais cette affirmation que je fais, elle est quand même liée à la nouveauté de l'objet. Ce type de conférence sur l'art, c'est très neuf avec le type d'adresse, hein, le type de public.
John Davis, je me demande si déjà en 1811 à Londres, si chez Morse il s'agissait de son fort anticatholicisme de l'époque, et s'il y avait vraiment un milieu français à Londres, il se peut qu'il se méfiait de ce milieu tout court. But I actually have another question. I think lately when we've been thinking about circulation, we largely have been thinking about the circulation of objects and images, at least in the field of American art, following the example of Jennifer Roberts and her famous case of the Copley Boy with a Squirrel painting being crated, and the months it takes for it to travel across the ocean, and more months to hear back about its reception. And François Brunet talks about this incident in the introduction to the volume. But Jean-Philippe Antoine, you remind us that there is also the circulation of ideas and of people. Morse, if he had not been himself circulating in London society at this time, would have never been exposed to this phenomenon of the new public lecture. And that leads to my question, which is actually for Marie-Stéphane de la Mer. Woodville is fascinating in one respect, and you alluded to it, in that his mature artistic career took place in Europe, and then after that we didn't hear any more about that. But this is, in my mind, the great mystery of his career, because we know so little about it. We do not know with whom he circulated when he lived these years in Europe, what his artistic circles were, his friends and the like. And I'm wondering, since you do compare Woodville to Bingham and talk about the circulation of their images, if the fact of Woodville's displacement in Europe in such a different situation than Bingham, if that in any way plays into the way you can compare the way that their images were received and circulated in the United States.
It's a...
Woodville is a very mysterious and compelling figure at the same time. He is independently wealthy. And I do think that in that regard, he's very different from Bingham, who really needs to get the commissions to make a living. So in that regard, I think they do live in very different spheres. What I find interesting about them is that in some ways, I mean, being Woodville, what we know of Woodville is mostly from two sources, the American Art Union. So we do know that they really like him, they really report about what he's doing. So we have an idea about what kind of places he's at. I would say that recent research has found a little bit more about him. For example, he was always understood as someone who was completely on the margin, even on the margins of the European art world. It's actually not true. I think that in Europe, he has a lot of connections probably with big families in Europe. His parents wanted to send him to Florence, they wanted to get rid of him because he'd married too young and against his parents' wishes. So they moved him away. But then he ended up in Düsseldorf, which was, you know, like the big academy that was attracting American artists at the time. We knew that he withdrew from the academy after a year. But what we didn't know, he withdrew to actually be the private pupil of two painters. And then we found that he continued exhibiting at the Düsseldorf Academy. So actually, he was very much a part of that Düsseldorf. There is also, like with him, something very strange, and that probably comes from his complicated history. You know, two marriages, four children. He died at age 30 or 35. Of an opium overdose, supposedly for medicinal purposes. There is some sort of, I'm thinking, considering his position in American society and in European society, there is a certain intention, I think, to erase him. So there is no papers whatsoever from him. What I found out also doing my research on Goupil for my dissertation was that actually so who knows, right? But he was doing very well with Goupil. The commissions that he started to have with Goupil, at first he's really treated on the same level as the other American artist in terms of what kind of money he's getting from the company. But then the last painting that is known to have been painted for Goupil, he got paid something like 80% more than what Goupil was usually giving its American artist. And that's the moment where he moved to London. In London, his family had huge amount of connections. His family had connections with Paris and London. So we know more about his Düsseldorf period from the American Art Union, but actually, unfortunately, he was not very productive in the sense that I think he was really painting only when he wanted, and he was very slow. But the few works that are left from the very last period shows also that he's very much integrated, I'd say, in the evolution of art in Paris and London at the time. He's starting to do very large figures instead of those miniaturist paintings. He has something called the Boy and the Hurdy-Gurdy. It's like a sort of an Italian figure, very dramatic and romantic, and with a sort of a the musical instrument. I'm not sure I'm actually answering the question at the end, but I do think that he was not a marginal figure in the European market. He exhibited at the Royal Academy. He transformed also the title of his paintings when he exhibited them from one place to the next. So I think he was playing with these cultural differences to his advantage, but he disappeared.
Thank you.
Viola Tillemans, I just wanted to say how exciting it is to hear this morning's talks, because for many reasons, of course, because they do something different than the volume itself does, so they really I think the volumes has triggered, and that was their intention, more thought. So in a way, that volume on circulation is already bringing ideas into circulation, and that's exactly what the Terra wanted to achieve with it. But then it also, I think, what makes it clear for me for the first time so, I mean, so transparently is the role of the arts in the United States in the 19th century. Actually, where it lies is the performative role that is given to the arts, the fact that the arts need to demonstrate more than maybe represent. And that's what I'm very grateful about, because it's not in the iconography that your papers, in a way, they don't delve into the iconography or the subjects, and so long American art history has often looked at what is being represented and the stories behind it. But for me here, what is out there is the fact that just the arts need to do. I mean, they need to move, and they need to make sure that they reach the audience. So the true kind of democratic role of the arts, I think, is through that notion of circulation that stands out this morning, and that's for me a great pleasure to see that.
I would like to add to that the fact that this is François Brunet here. I particularly enjoy the discussion of the role of Goupil in being an early transnational distributor. I mean, we know this, but it's a great example, because Goupil is involved in carrying prints not just between Europe and America or America and Europe, but between Americans. I mean, this is something that is very interesting for the history of circulation. J'ai une question pour Jean-Philippe Antoine sur Samuel Morse, dont on sait que un peu plus tard dans sa carrière, on y faisait allusion tout à l'instant avec le Fear of Conspiracy, il a un discontent avec la situation américaine qui est très fort. Alors, c'est pas le cas en 1826, parce qu'en 1826, il est beaucoup plus dans une phase, comme tu l'as montré, d'ascendant, d'expansion, tout semble se mettre en place, etc. Et la question, c'est jusqu'à quel point les lectures font-elles, puisque tu as pas pu en parler en détail, tiennent-elles compte, donnent-elles un reflet, un écho d'une situation américaine qui serait particulière par rapport à la situation de Coleridge en Angleterre. Je veux dire que c'est bien sûr la relation est très, certainement très forte, mais on peut imaginer assez facilement aussi que Morse a déjà conscience en 1826 que démocratiser l'art, c'est pas la même chose aux États-Unis, en Angleterre, ou en Europe, ou alors inversement, peut-être c'est la même chose. Je ne sais pas. Est-ce que cette différence-là, est-ce que la particularité d'une situation américaine, des contraintes peut-être de la situation américaine apparaît? Est-ce que c'est quelque chose qui est registered, je dirais, dans les conférences, dans ta lecture ou non?
Alors, la réponse, elle est compliquée par un fait que je n'ai pas mentionné là, pour ne pas allonger, mais que les conférences, elles sont rédigées entre 1825 et 1826. Morse les redonne 2 ans plus tard, aussi dans un contexte new-yorkais d'institutions, etc. Et puis, à partir de 1835, pendant quelques années, il utilise ces conférences pour les cours qu'il donne, enfin un petit nombre d'étudiants, à New York University, où il est devenu donc professeur des arts du dessin, de la littérature des arts du dessin. Et il y a des variantes. Alors les manuscrits des conférences, il est assez difficile à lire, parce que justement, comme il les a réutilisés ensuite, il y a des inserts, il y a des choses qui ne sont pas datées, et c'est un peu compliqué. Mais disons que je crois qu'on peut dire qu'en 1826, il est encore dans une phase optimiste. Donc et en particulier, j'en ai pas parlé là, mais il y a un paragraphe assez étonnant au début de la première conférence, où il dit que il dit quelque chose qui fait beaucoup penser à ce qu'écrira Baudelaire maintenant plus tard, après avoir vu la première exposition universelle, où il parle en gros de la mondialisation, de la circulation des objets qui est manifestée là-dedans. Et moi, c'est déjà en train de dire, bon, les États-Unis, nous, on est un pays où il y a absolument tout, il y a des objets chinois, et on sent que à cette époque-là, il est encore dans l'idée que c'est la grandeur des États-Unis que de permettre ça. Et après, il y a des ajouts au texte des conférences qui sont ultérieurs, on le sait, parce que là, pour le coup, ils sont datables, ça indique que c'est sa période d'enseignement. Et là, il commence, au contraire, à dire que le problème du pain, c'est le public. Et que s'il faut l'éduquer, cette éducation est en train de se révéler être épouvantablement difficile, et que justement le public. Alors c'est intéressant parce qu'il donne vraiment une part extrêmement forte au public. Mais c'est pour dire à ce moment-là, si le public réclame des médiocrités, etc., l'artiste va produire des médiocrités contraints et forcées parce qu'il est dans un marché et qu'il ne peut pas faire autrement. Et là, on a le début de ce qui va ensuite, par exemple, le conduire à ses positions nativistes en 1840, lorsqu'il est candidat à la mairie de New York, et qu'il a pris un discours alors qu'il est devenu encore plus violemment anti-catholique et anti-papiste. Et puis aussi anti-immigré, c'est sûr.
Ok, donc en 1826, on est encore dans les bons sentiments.
Oui, en gros, oui.
D'accord.
Oui.
Ok, merci.
Je me demandais si on avait des indications sur les salles dans lesquelles il présentait. Est-ce que c'était des théâtres? Est-ce que
c'était la chapelle de Columbia College, mais qui à l'époque était downtown, si je puis dire. Donc près de, enfin là où se trouve encore aujourd'hui la mairie à peu près.
Et sur le statut du texte, tu as dit qu'il était manuscrit. Est-ce qu'il a jamais été publié ou...
Il a été publié en 1983.
Oui, c'est ça. Donc jamais avant.
150 ans.
C'était vraiment manuscrit.
160 ans après presque. Non, ça jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces conférences n'ont pas eu. Enfin, elles sont très intéressantes, mais il faut dire qu'elles n'ont quasiment pas eu d'impact dans les décennies qui ont suivi, parce qu'elles ont été oubliées tout simplement. Enfin, lui-même les a remisées, d'ailleurs, il les a jamais publiées. Alors je pense qu'elles n'ont pas été publiées au moment où elles ont été prononcées, parce que publier c'était très dangereux, plagiat, publication clandestine, etc. Les gens essayaient de garder le texte de leur conférence près du corps. Sauf s'il est publié de façon ensuite très prestigieuse, mais je pense que c'était une des raisons, le non-respect des droits d'auteur était quand même à la règle à peu près dans la publication à l'époque. Donc, et après, il ne publie pas parce que d'abord il y a le télégraphe, il passe à autre chose, et puis. Mais il y a eu très peu de publications, parce que Washington Olson a écrit des Lectures on Art qui, elles, n'ont jamais été prononcées en public. Il les a lues à quelques amis, et puis après, il est mort, etc. Et ça a été publié aussi de façon tardive. Donc, il y a eu une coupure, en fait, pendant un certain temps, avant que le genre ressurgisse, mais ailleurs.
À propos de Stéphanie, il y avait cette question des scènes de genre. Et il me semble que dans la gravure, peut-être l'exemple qui pourrait venir aussi, c'est celui de Jean-Georges Ville, qui a été très très important pour cette émergence de la scène de genre dans la gravure. Et dans toutes ces
Oui, en fait, je pense à Wilkie, mais il y en a d'autres, effectivement. Il y en a plein.
Au niveau d'une diffusion vraiment très largement européenne. Dès la fin du disque.
Ouais, il y a aussi George Mullen qui a une production absolument énorme de scènes de genre, dont certaines me font beaucoup penser à William Sidney Mount. Il en a une qui s'appelle alehouse politicians. And la composition est extrêmement similaire à certaines des œuvres de William Sidney Mount, for example. Je pense que la scène de genre dans le contexte américain, elle se développe à un moment particulier, elle touche à certains thèmes de thèmes qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que... Ça reprend beaucoup de l'imagerie européenne et ça la transforme, en fait, pour l'adapter à un contexte différent. Et pour reprendre la question de Vanessa Schwartz sur l'Espagne, il y a au moins un peintre mexicain que je connais qui était à la Nouvelle-Orléans vraiment à la fin du 18e, début du 19e. Il y a une question qui m'intéresse à propos des portraits de Bingham. Il a tendance à mettre le nom de ses sitters et la date, enfin leur âge, dans certaines de ses peintures. Pour moi, c'est quelque chose que j'associe à l'art colonial de l'Amérique du Sud. Et donc, je pense qu'il y a des connexions, ouais, à poursuivre, quoi.
Donc, je crois que là, on a eu une matinée absolument passionnante. On doit encore remercier la Fondation Terra, François Brunet, Verle Tillmans et tous les éditeurs de ce volume, Francesca Rose aussi, bien sûr. Et donc, nous avons parlé ce matin de cette question de l'émergence d'un projet démocratique, d'un espace public, une réflexion sur un espace public plus large, soit par la gravure, soit par la diffusion orale et la communication orale. Et l'artiste lui-même devenant l'ambassadeur de son art. Et cet après-midi, donc, nous donnons rendez-vous à 14h30 pour une seconde session de ces journées d'études consacrées à la question de la circulation et la non-circulation. Voilà.
Alors, et avant de